Vous écoutez RTL.
14h03 sur RTL, c'est le moment de retrouver Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à tous et c'est parti pour une heure de curiosité. C'est jusqu'à 15h comme tous les jours sur RTL. Des découvertes, des surprises et tout ça en s'amusant. Vous allez bien Thomas ?
Mais oui, ça va très bien. Bonjour Sidonie, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer les destins de ces grands vaincus de l'histoire, notamment celui de Vercingétorix, le chef gaulois. Vous allez découvrir le calvaire qu'il a subi après la défaite d'Alésia. Torture, privation, isolement et humiliation publique infligée par César. Tout ça, ce sera vers 14h30 sur RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité, les secrets d'une scène de crime.
RTL.
Jocelyn et ses hommes s'occupent aussi des scènes de crime ou de suicide. Ils sont confrontés au pire.
La curiosité est un vilain défaut.
Sur une décomposition avancée, là ça commence à être compliqué. Puisque vous avez les résidus, les fluides corporels, en plus des déchets. Donc il faut faire très attention, tout ce qui risque d'infection.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sur le générique des experts, The Who, bonjour Perrine Rogier-Tubert.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Soyez la bienvenue, vous êtes capitaine de police au service régional d'identité judiciaire de Paris, vous êtes technicien de scène de crime, ça veut dire que c'est vous qui êtes appelée la première sur une scène de crime ?
Alors, lorsqu'une scène de crime se présente à nous, les premiers intervenants, en fait, majoritairement, sont des effectifs de sécurité publique en tenue, hein, qui assistent avec l'inventeur du cadavre à la découverte de la victime. Et ensuite, nous sommes appelés, effectivement, pour effectuer toutes les investigations techniques avec un service enquêteur saisi de l'affaire.
Ce que vous appelez l'inventeur du cadavre, c'est celui qui l'a découvert ?
Alors, l'inventeur du cadavre, oui, c'est le nom donné à celui qui a découvert le corps. Alors, en général, c'est soit le premier qui l'a découvert mort, soit parfois également celui qui l'a vu vivant pour la dernière fois.
Perrine Rogier-Tubert, vous partez avec quel matériel ? Vous arrivez avec quel matériel sur cette scène de crime ?
Alors, tout dépend de la scène de crime. S'il s'agit d'une scène de crime en extérieur ou en intérieur, lorsque nous partons, nous avons quand même des informations, c'est-à-dire est-ce qu'on s'oriente vers, par exemple, un homicide par arme à feu, ou vers une scène de crime ensanglantée ? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de matériel, et en fonction de l'affaire sur laquelle on se rend, on adapte le matériel qu'on va emporter avec nous.
Et donc, on peut trouver quoi, par exemple, une bombe de Blue Star pour révéler le sang sur les murs,
oui,
des pinces. On n'a vraiment pas idée de ce qui peut se trouver dans vos bagages à ce moment-là.
Alors effectivement, on a beaucoup de mallettes de prélèvement. On a tout le matériel de photographie pour figer les lieux. On est équipé effectivement de pinces stériles, de scalpels pour effectuer tous les prélèvements biologiques, recherche de traces papillaires également sur les lieux.
Papillaires, c'est les
empreintes, les traces digitales, traces digitales ou palmaires. Effectivement, nous sommes également dotés de lampes qui vont nous permettre des détections optiques, de fluides corporels. Enfin, effectivement, on peut partir lourdement chargé. Oui.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites en premier quand vous arrivez sur une scène de crime ? Est-ce qu'elle a déjà été isolée du public ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, idéalement, la scène de crime a dû être isolée du public, des badauds, par un système de périmètre de sécurité qui a été placé en amont avant notre arrivée.
Alors vous faites quoi ? Vous regardez quoi en premier ?
Personnellement, donc j'observe. Voilà, les premières minutes, on observe.
Pas que le corps, autour du corps aussi.
Voilà. Alors on s'équipe, évidemment, on s'équipe totalement par des tenues qui nous permettent d'éviter toute pollution sur la scène de crime. Et on fait un premier tour, en fait, à la fois, si par exemple nous sommes en appartement, on va faire un tour de l'appartement, on observe le cadavre, et tout de suite il faut figer les lieux, donc par des photographies de sécurité dans un premier temps. C'est très important, en fait, la fixation des lieux. Pour plus tard, notamment quand il y a des reconstitutions, il faut que la scène de crime, elle puisse être rendue au juge d'instruction telle qu'elle était lorsqu'on la découvre.
Capitaine Perrine Rogier-Tubert, à quel moment vous touchez sur cette scène de crime, vous touchez le corps ? Est-ce que vous avez à le toucher d'ailleurs, à le manipuler ?
Sur toute mort suspecte, on est obligé de toucher en fait le corps, ne serait-ce que pour voir si, par exemple, il y a un couteau planté dans le dos ou des éléments qui vont nous permettre de confirmer l'hypothèse d'un homicide. Alors, sur les lieux, parfois, l'examen du corps ne nous permet pas d'affirmer avec certitude s'il s'agit d'un homicide, d'une mort accidentelle ou d'un suicide. Mais évidemment, il y a ce qu'on appelle la levée de corps, donc on est obligé de manipuler le corps avec toutes les précautions nécessaires pour éviter des déperditions d'indices, d'éviter d'interagir sur les signes cadavériques qui, pendant ce temps, s'installent. Parce que les premiers signes cadavériques s'installent très vite au moment du décès. Et lorsque vous passez 8 heures sur une scène de crime, eh bien, en 8 heures, le corps, il évolue. Les premiers signes cadavériques s'installent.
Se rigidifie, c'est quoi
oui,
en fait
tout ouais. à fait. Il y a la raideur cadavérique, donc la rigidité cadavérique.
Ça, c'est le premier signe, c'est
qui
ça
intervient ouais, très rapidement après le décès. Les lividités cadavériques également, qui sont donc des zones violacées. En fait, c'est le sang qui va rejoindre les zones déclives d'un corps. Donc, pour un corps, par exemple, découvert en décubitus dorsal, c'est-à-dire allongé sur le dos, eh bien, les lividités, logiquement, doivent se trouver sur la face postérieure du cadavre.
Ça peut être un indice, c'est-à-dire que si les lividités ne correspondent pas à la position du corps, vous dites qu'il a pu être bougé
par
quelqu'un, par exemple.
C'est ce qu'on appelle des lividités paradoxales, où effectivement, c'est pour ça qu'il est très important, lorsqu'on arrive sur une scène de crime, de savoir quelles ont été les actions déjà menées par les pompiers, par exemple, s'ils ont tenté une réanimation, s'ils ont bougé la victime. Parfois, si la victime est découverte par un proche, un parent ou un voisin, le premier réflexe souvent c'est de toucher également la victime. Donc c'est pour nous c'est très important de savoir exactement la manière dont le corps a été découvert.
Perrine Rogier-Tubert, vous publiez l'aveu des indices manuel de thanatologie chez Payot, et parmi les indices sur une scène de crime, les insectes, on les appelle la faune des cadavres et ils sont très bavards. On vous raconte pourquoi tout de suite sur RTL.
Excusez-moi messieurs, vous n'avez rien à faire ici.
Sheriff Marley, je suppose.
Oui, vous êtes
Agent Bulit, Ripper FBI, nous prenons l'affaire en charge.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous n'avez touché à rien ?
Si, on a tout touché dans la chambre sans mettre de gants. On a lavé la victime à l'eau de Javel et on s'est coupé les ongles dans la pièce. Vous voulez pas ?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Écoutez, shérif, si vous voulez nous mettre des bâtons de berger dans les roues, je vous promets qu'à ce petit jeu-là, c'est celui qui dit qui y est.
Sur RTL.
Extrait de Mais qui a tué Pamela Rose avec Jean-Paul Rouve, Cad et
qui a gâché la scène de crime, on sait déjà.
Heureusement, c'est pas des vrais flics. Bref, on vous dévoile les secrets d'une scène de crime et là, on redevient sérieux avec le capitaine de police Perrine Rogier-Tubert. Je rappelle que vous êtes au service régional de l'identité judiciaire de Paris, technicien de scène de crime. Alors, on parle souvent des insectes. Pourquoi les insectes jouent un rôle important et sont des, pour vous, de bons alliés, de bons indicateurs ?
Alors, les insectes sont de bons indicateurs parce que au moment du décès, le corps en fait va dégager une odeur qui n'est pas perceptible par l'homme. C'est-à-dire que lorsque j'interviens sur une scène de crime d'un corps dit frais de quelques heures, il n'y a pas d'odeur qui se dégage du corps. Ouais. Mais il y a des relents qui émanent du cadavre et qui ne sont perceptibles que par certains insectes et par les chats également, dont l'odorologie est très développée. Et donc ces insectes, que l'on soit en milieu ouvert, donc par exemple lors d'une découverte d'un corps en forêt, ou même en milieu fermé, en appartement, ces insectes vont venir se nourrir, se substanter d'éléments biologiques en pénétrant les orifices naturels humides du cadavre.
Donc les narines.
Les narines, l'intérieur des yeux, la bouche et l'anus. Et ces insectes, ces escouades ou ces vagues.
Escouades parce qu'ils arrivent en groupe, c'est ça, en
nombre. Oui, en nombre. Ces escouades en fait interviennent toujours dans un ordre chronologique qui est immuable, c'est-à-dire que la première escouade d'insectes qui est constituée de diptères ou de califorides, en fait,
c'est quoi ça comme insecte, ouais.
Voilà, ce sont des mouches. D'accord. Elles vont être attirées par les premières odeurs dégagées du corps frais. Elles vont venir pondre leurs œufs dans les orifices naturels, puis ensuite, comme le corps, la décomposition organique va commencer à s'installer, va dégager une autre forme d'odeur. Et cette odeur va faire fuir la première escouade, mais en revanche, va attirer la deuxième escouade. Et donc, c'est pour ça qu'il y a
Et donc, c'est d'autres insectes ?
Voilà, ce sont d'autres insectes. Donc, ça peut être des diptères, des acariens, enfin. Et il y a 8 escouades comme ça qui vont se succéder.
Et qui vont dévorer le corps ?
Qui vont se nourrir effectivement des fluides organiques et biologiques du corps et qui vont dégrader le corps. Et ça peut aller jusqu'à à peu près 2 ans après le décès. Donc l'intérêt pour nous sur une scène de crime, c'est d'effectuer des prélèvements dits entomologiques, c'est-à-dire les prélèvements d'insectes, à la fois sur le corps, sous le corps également, et ensuite, ces insectes vont être, les insectes vivants ou morts, hein, on relève les deux catégories, vont être, pour les insectes vivants, amenés jusqu'à leur taille adulte pour savoir à quelle escouade est-ce qu'on fait face. Et ça nous permet d'avoir une idée donc, de la première ponte.
Et donc de l'heure de la mort. Ouais.
Alors, ouais. Pas forcément, non. Puisque il y a certains éléments qui vont... par exemple, la congélation d'un corps ne va pas entraîner une décomposition cadavérique immédiate, donc l'odeur ne sera pas ressentie. Il faut quand même que l'insecte ait un accès en fait au corps.
Petite question bête peut-être, ouais. Hein, je me demandais ça Thomas, si le cadavre est dans une pièce fermée, comment entrent les insectes qui vont se nourrir des fluides corporels ?
Alors c'est vrai que sur mes premières scènes de crime, j'étais toujours intriguée par la présence quand même d'insectes, de larves, alors qu'on était dans des logements totalement fermés, propres. Et finalement, il suffit d'une gaine d'aération ou même d'un animal domestique qui transporte à un moment un acarien ou quelque chose et ça peut commencer à se développer.
Et ils sont attirés par l'odeur, donc par ils arrivent vite.
Ils arrivent très vite. Ouais. Et par l'odeur du sang également. C'est-à-dire que si vous faites face à un cadavre qui présente des plaies béantes hémorragiques, le sang également peut attirer la première escouade et ce jusqu'à plusieurs kilomètres.
L'aveu des indices, c'est le titre de votre livre, Perrine Rogier-Tuber, publié chez Payot. On va parler maintenant du spasme cadavérique. Mais c'est quoi le spasme cadavérique ? Réponse dans un court instant sur RTL.
14h, 15h.
Le crime a lieu où ?
Ici.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La victime a été tuée à la saucisse au marteau.
Non, commissaire, faucille.
On lit saucisse un peu quand même, hein.
Sur RTL.
D'autres indices ?
Oui, le tueur a gravé une deuxième lettre sur le mur. La première était en haut, la deuxième est un D. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais les types des chiffres et des lettres sont dessus.
La cité de la peur, où quand le commissaire Bialès, incarné par Gérard Darmon, mène l'enquête. Et nous, on a un vrai capitaine de police dans la curiosité, c'est mieux. Perrine Rogier-Tuber, votre spécialité, ce sont les scènes de crime. D'ailleurs, quelle étude il faut faire pour réaliser, pratiquer votre boulot au quotidien ?
Alors, il n'y a pas d'études préalables indispensables pour se rendre sur les scènes de crime. En fait, le tout est de rentrer dans la police. Mmh. Et ensuite, vous faites le choix, effectivement, d'intégrer un service comme l'identité judiciaire. C'est un choix qu'il faut faire avec certitude. C'est-à-dire que le quotidien, ça va être quand même des découvertes de cadavres. Donc, il faut être certain d'avoir envie de prendre le risque de se rendre dans ce genre de service. Parfois, certains effectifs, au bout de quelques mois, se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Maintenant, l'avantage de la police, c'est qu'il y a énormément de brigades différentes. Je pense qu'il faut vraiment le faire avec passion, parce que c'est un quotidien qui n'est pas forcément des plus drôles. Donc, si on le fait sans passion... on le fait mal.
Ben oui, et puis pendant que vous nous répondez, en fait, on voit que vous revivez, vous avez le regard dans vos souvenirs, donc il faut avoir le cœur bien accroché, il y a des scènes qui doivent être insupportables. Ça fait partie de votre quotidien, ça ?
Oui, il y a des scènes de crime plus marquantes que d'autres. Tout dépend, parfois ça dépend de l'environnement, ça dépend aussi de la victime. Maintenant, sur le nombre de cadavres que j'ai vus, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. Il y a des scènes de crime qui sont très marquantes. Là aujourd'hui, sur toutes les scènes de crime sur lesquelles je me suis rendue, évidemment, par exemple les attentats, c'est la scène de crime les plus marquantes.
Avec vous, Perrine Rogier-Tuber, on continue de raconter comment vous collectez, vous prélevez sur les scènes de crime des indices pour comprendre comment la personne est décédée. Et il y a un de ces indices, c'est le spasme cadavérique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme très précis,
alors,
très technique ?
Le spasme cadavérique, effectivement, c'est un terme qu'on utilise dans certaines scènes de crime, notamment les scènes de crime par arme à feu, puisque le spasme cadavérique, ça va être une rigidité instantanée. Tout à l'heure, on parlait de la rigidité, elle apparaît à peu près 2 heures après le décès. Mmh. Un spasme cadavérique, ça va être une raideur localisée qui apparaît dès le décès. Lors, par exemple, d'un suicide par arme à feu, on peut avoir un spasme cadavérique.
C'est la main qui se fiche, par exemple
La main qui se fiche sur l'arme.
Voilà. D'accord. Et à quoi ça vous sert ? Qu'est-ce que ça vous permet de comprendre, ça ?
Bah, un spasme cadavérique, en général, vous l'avez en matière de suicide, principalement. Il y a également un signe qui est assimilé au spasme cadavérique, qu'on appelle un peu le signe de Lazare, c'est-à-dire, de temps en temps, lorsque le corps est très frais, tout d'un coup, il peut y avoir une flexion des membres supérieurs, qui peut d'ailleurs, qui a longtemps posé question aux anatomistes, parce qu'on ne comprenait pas comment quelqu'un qui était décédé pouvait encore présenter un bras tout d'un coup qui se dresse, en fait, qui se replie sur la poitrine. Bon, bah ça, c'est un spasme cadavérique. Et ça, c'est tous les traités de médecine légale, toutes les études qui ont permis d'affirmer qu'il s'agissait d'un réflexe musculaire post-mortem et non pas comme certaines familles le pensaient, alors qu'ils faisaient le deuil de leurs parents et qu'ils étaient encore dans la chambre du défunt, pensaient que la victime en fait n'était pas décédée et prenaient ce spasme cadavérique en fait pour un regain de vie, quoi. Et d'où cette phobie en fait que l'on rencontre moins aujourd'hui, qui est donc la taphophobie, qui est
d'être enterré vivant.
Voilà. Et donc ça, c'est une phobie qui est assez méconnue, mais qui est vraiment la peur d'être enterré vivant, et c'est une phobie en plus qui est quasiment héréditaire. Donc Frédéric Chopin était complètement atteint de cette phobie, enfin à tel point qu'il avait laissé un message en fait en disant bah, le jour où je décède, attendez avant de m'enterrer, et surtout retirez les viscères de mon corps pour être sûr que je ne me réveille pas. Enfin, c'est voilà.
Je reviens à la question psychologique. Vous parliez des scènes de crime, des attentats. J'imagine qu'il y a quand même certaines images qui restent là, qui vous poursuivent. Vous avez un soutien psychologique après une affaire, ou finalement ça fait partie de votre métier, et donc vous n'allez pas, après chaque scène de crime, aller voir un psy ?
Alors on peut aujourd'hui, donc en police judiciaire, enfin même dans les autres services de police, on a un soutien psychologique. On peut, à notre demande, être reçu pour un soutien, un suivi psychologique. Là-dessus, effectivement, je dirais qu'il y a 20-25 ans, je pense qu'il y avait moins de suivi. Aujourd'hui, il y a un bon suivi psychologique, oui.
Et vous l'utilisez ?
Moi, je l'avais utilisé effectivement après les attentats pour un suivi psychologique collectif. Ensuite, certains choisissent un suivi psychologique individuel. Là, après, ça dépend vraiment de chacun.
Perrine Rogier-Tubert, dans votre boîte à outils de technicien de scène de crime, un produit magique pour les enquêteurs, mais qui fait trembler les criminels. C'est le Blue Star, une sorte de révélateur de sang. On vous en parle dans un bref instant sur RTL.
Et il est dans ce livre, L'aveu des indices, publié chez Payot. Et puis juste après, Le destin des grands vaincus de l'histoire. On va vous raconter Vercingétorix. Ça tout de suite sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et avec le capitaine de police Perrine Rogier-Tubert, on découvre les secrets des scènes de crime et de cet outil qui a changé, révolutionné la vie des techniciens de scènes de crime comme vous, Perrine. C'est le Blue Star. Vous arrivez par exemple chez une femme dont le compagnon a disparu et vous l'utilisez, ce Blue Star. Déjà, à quoi ça ressemble, comment vous l'utilisez et qu'est-ce que ça permet de révéler ?
Alors le Blue Star, il est utilisé sur des scènes de crime où l'on suspecte l'auteur d'avoir nettoyé en fait les traces de sang, donc des traces qui sont invisibles à l'œil nu. Et le Blue Star, qui se présente sous forme d'un spray avec une dilution, enfin une solution qu'on va appliquer sur les zones, les murs, enfin
partout.
Ouais.
Sur la faïence, les lavabos, tout,
voilà,
quoi.
Oui. À ce moment-là, nous sommes dans l'obscurité pour effectuer cette opération, puisque le Blue Star peut se révéler positif avec une luminescence bleutée qui va apparaître. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle des faux positifs, parce que ça réagit avec le fer qui est contenu dans l'hémoglobine, mais certains produits ménagers possèdent également du fer, certains solvants. Donc ensuite, nous, on a des tests qui nous permettent de vérifier s'il s'agit vraiment de sang ou pas.
Et pour cette femme-là, si on essaye de boucler cette histoire, cette femme dont le compagnon a disparu, vous vous rendez compte de quoi, en fait, grâce au Blue Star ?
Eh bien que l'appartement est totalement bleuté après le passage du Blue Star.
Constellé de sang, quoi.
Voilà, donc là, on sait que la victime, au vu de la quantité de sang qui apparaît, on sait que la victime a été tuée dans cet appartement.
Ça veut dire qu'on peut nettoyer une scène de crime jusqu'à la folie, il restera toujours des traces ? Le sang ne peut pas disparaître et le Blue Star sera toujours un révélateur ?
Ouais, le Blue Star est toujours un révélateur. Maintenant, le Blue Star n'est un secret pour personne, donc même pour les meurtriers en herbe qui nous écoutent, ils le savent. Donc ils essaient d'utiliser des artifices pour éviter que que nous parvenions à...
Ça sert à rien.
On a toujours une petite longueur d'avance.
Eh ben bravo, merci beaucoup Perrine Rogier-Tubert, merci.
Je rappelle que vous publiez l'aveu des indices manuels de thanatologie. On a raconté qu'un centième, qu'un millième de votre métier et c'est passionnant. C'était aux éditions Payot. À bientôt, merci à vous.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.